Je te remercie, mon Dieu, pour ta fidélité sur le fait que, bien quand nous avons un besoin, quel qu'il soit, nous pouvons venir vers toi et tu es le Dieu qui rassure nos cœurs. Je te remercie, mon Dieu, pour ta présence. Je te remercie de fortifier chacun qui en a besoin, aussi bien physiquement, tous ceux qui écouteront sur Internet. S'ils viennent écouter, c'est parce qu'ils ont soif de toi, de ta parole. Je te remercie parce que je sais que tu es vivant, je le proclame. Je te remercie par avance pour les résultats, pour les miracles qui vont avoir lieu. Merci Jésus. Amen.
Que Dieu soit béni. Bonjour à vous qui nous rejoignez sur Internet et sur la télé aussi. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Romains chapitre 5, verset 14 ce soir. Nous avons pris la décision il y a quelque temps en arrière de coder les prédications du vendredi afin que ce soit vraiment ceux qui sont très intéressés, qui sont obligés de faire une démarche pour pouvoir vraiment l'écouter. Parce que les prédications du vendredi, pas toutes, mais il y en a quelques-unes qui sont des choses un peu plus profondes que simplement ce qui est dit couramment. Et ce soir, je vous demanderai d'être très attentif parce que c'est quelque chose d'important que je vais vous dire. Romains chapitre 5, verset 14. Je lis et je reviendrai sur ce texte et dans son contexte après. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen. Alors, comme ça, pris hors de son contexte, ce texte est très étrange, mais en fait, il ne l'est pas. Il faut lire tout ce qui est écrit avec. Je vous rappelle que l'Épître aux Romains, c'est une épître, c'est une lettre qui est écrite aux Romains à l'époque, à l'église de Rome, mais cette lettre nous est parvenue. Mais si on prend un verset comme ça, sans faire attention à tout ce qui est dans cette lettre, eh bien, on risque de se tromper. Alors, je vais vous donner quelques explications ce soir. Sachant déjà que vous savez beaucoup de choses au sujet de ce que je vais vous dire, mais je ne vais pas rabâcher les mêmes choses, mais de temps en temps je serai quand même un petit peu obligé de faire des aimables répétitions, comme disait notre ami Renaud. Ce verset donc n'est pas étrange parce qu'en fait il veut dire ce qu'il dit, il ne veut rien dire d'autre que ce qu'il dit. Et on comprend donc par là que c'est à cause de l'offense d'Ève et Adam, que la mort est entrée dans le monde, ça on le sait. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu en goûteras, où tu en mangeras, tu mourras. Et la mort est donc entrée là, à cause de la transgression, à cause du péché. Et la mort a régné, Paul nous dit, depuis Adam jusqu'à Moïse. Alors il nous faut comprendre par là que tant que la loi n'avait pas été donnée, le péché personnel n'était pas compté. Parce que le péché n'est pas compté, n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. C'est ce que nous dit le verset 13. Le verset 13 nous dit « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. » C'est clair. Donc, depuis Genèse 4, 7, moment de la chute, jusqu'à Exode 29, 14, le don de la loi, il n'y a pas de sacrifice pour le péché. On peut faire un sacrifice à Dieu, un sacrifice de reconnaissance, lui donner quelque chose, comme Caïn et Abel ont fait, par exemple. Mais ce n'était pas une loi, ils le faisaient de leur cœur, comme ça. Il n'y avait pas de loi de sacrifice pour le péché, parce que ni la loi sacrificielle n'avait été donnée. C'est venu par Moïse. Et la mort qui a sévi, donc de Adam jusqu'à Moïse, la mort physique qui a sévi depuis Adam jusqu'à Moïse, n'était pas la conséquence des péchés faits par ceux qui mouraient. Si ces gens mouraient, c'est parce que depuis Adam, l'homme et la femme était devenue mortelle. En fait, la malédiction s'était étendue aussi à toute la nature. Et puis Dieu a donné la loi. Et là, chacun était tenu responsable de ses propres péchés. Les gens mouraient toujours. Ils mouraient toujours à cause de leur condition mortelle héritée d'Adam et Ève. Mais est-ce que vous me suivez? Ce n'était pas à cause du péché d'Adam et Ève qu'ils étaient punis, qu'ils étaient jugés, c'était à cause de leur propre transgression de la loi. Mais le fait de mourir n'avait plus rien à voir. C'était simplement à cause du fait que la nature entière avait été soumise à cette puissance de mort. Et puis Dieu a envoyé Jésus. Et là, il y a eu un contraste formidable, parce que Adam a fait entrer le péché et la mort, et Jésus a fait entrer la justice et la vie. La grâce qui a été établie là fait une différence extraordinaire, puisque il y avait la condamnation en Adam, et puis il y a la justification en Jésus-Christ. Jésus-Christ est nommé par l'apôtre Paul le second Adam, celui qui porte non pas en lui-même la condamnation, mais en lui-même la justification, notre justification. Alors, question, est-ce que la mort règne encore sur terre? Oui, à cause de la malédiction qui est tombée sur Adam, elle règne sur toute la nature qui est devenue mortelle. Dieu n'a pas retiré ça. Et toute la nature, la Bible nous dit, Paul nous dit, elle soupire après la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Nous sommes des fils de Dieu, mais nous n'avons pas encore été révélés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, autrefois, les photos, on prenait une photo et c'était sur le négatif, mais tant que ça n'avait pas été passé par les bains révélateurs, on ne voyait rien. Et à l'heure actuelle, on n'a pas encore été passé par, si vous voulez, les bains révélateurs. Mais nous sommes fils et filles de Dieu, mais ça n'a pas été révélé. On trouve ça dans Romains 8, 19. Et la nature, elle soupire après la révélation des enfants de Dieu, des fils de Dieu, que nous soyons réellement montrés, non seulement voilà, une belle image, mais aussi par des actes puissants. Nous avons les prémices de l'esprit, et c'est avec les prémices de l'esprit que nous agissons. Et ce n'est pas très, 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 très fort, il faut l'avouer. Regardez le monde, c'est une horreur ce qui se passe dans ce monde, c'est une horreur. Et les enfants de Dieu, en plus, ils dorment. Hein, ils dorment. Les vierges folles dorment, les vierges sages dorment. Il y a juste un tout petit nombre qui n'est même pas nommé. On trouve juste Jésus dit, on cria, il y a une voix qui a crié. C'était une partie des vierges folles qui a crié, voilà, l'époux vient. Il y en avait quelques-unes qui ne dormaient pas vraiment, qui étaient conscientes de ce qui se passait. Mais c'est très peu de monde. Donc, les conséquences de la chute atteignent encore nos corps, c'est-à-dire la maladie atteint nos corps, la mort atteint nos corps. Si Jésus ne revient pas pour nous enlever, on va tous y passer. C'est comme ça, on est dans cette position, dans cette condition de mortel. Mais si nos corps sont encore mortels, notre être, l'être vivant que nous sommes, a reçu l'éternité, notre âme. Et notre corps ressuscitera à la fin, et revêtira également l'immortalité. Mais ça sera tout à la fin. Pour le moment, Paul va très loin, il dit même que notre corps n'a pas été racheté dans Romains 8. C'est terrible ce qu'il ose dire. La mort met un gain. La mort physique, c'est un gain pour ceux qui croient. Parce que nous savons, nous avons un absolu de foi, nous savons que notre être, notre âme est sauvée, qu'elle a reçu l'immortalité. Alors, autant vivre en dehors de ce corps, plein de limitations, plutôt que de souffrir dans ce corps, en étant enfermé dans ce corps qui dépérit et qui est sujet à toutes sortes de problèmes incroyables. Oui ou non? Paul, il dit, la mort met un gain. Et il sait ce qu'il dit. Voilà, ça c'est notre foi absolue. Mais ça ne veut pas dire qu'on est suicidaire. On va continuer à vivre, nous avons des raisons de vivre qui sont magnifiques. Mais quand même, un chrétien sait que pour lui, il lui est avantageux de mourir. Moi, si on me dit, demain tu meurs, mais ça va être génial, on va faire une super fête ce soir, et puis on va se dire à bientôt, et hop, c'est super, c'est pas un sujet de tristesse. Alors, la mort règne et elle sera détruite, nous dit aussi la Bible. En fait, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, 26 que le dernier ennemi qui sera détruit, qui sera neutralisé, qui sera rendu impuissant, c'est la mort. Donc la mort est un être. On ne meurt pas parce que notre cœur cesse de battre, c'est parce que cet être a ce pouvoir, il a un pouvoir de nous faire ce qu'on appelle mourir. C'est quelque chose de très étrange. Des fois, je me dis, mais comment ça va se passer? Alors, Philippe, lui, il sait un peu, parce qu'il est déjà sorti de son corps une fois ou deux déjà. Moi, jamais encore vraiment. Oui, à un moment donné, j'ai eu une expérience comme ça, mais c'était pas. C'était. Je ne peux pas vraiment dire, mais il y a un moment où, voilà, l'esprit, ça s'en va. Et puis le corps, pouf, on a vu, hein, on a tous, presque tous vu, soit peut-être les enfants, quelqu'un qui est mort, ben voilà, il y a quand même quelque chose de très différent. Il pèse toujours le même poids, mais il y a quelque chose de très important qui n'est plus là. La mort, c'est un être, et cet être, c'est un ennemi. C'est quand même marrant que l'apôtre Paul dit « la mort m'est un gain ». Vous voyez bien qu'il parle de deux sortes de morts, hein. La mort m'est un gain, et c'est un ennemi. C'est un ennemi, ennemi de la vie. Parce que la vie, c'est aussi un être. Dieu est la vie. Jésus l'a dit, il a dit, je suis la vie. Alors, si la vie est un être, eh bien, la mort est aussi un être, et c'est un ennemi. En ce moment, il y a une guerre dans les cieux. Jésus se bat contre les dominations, les autorités, les puissances spirituelles. On trouve ça dans 1 Corinthiens 15, 24. Il y a une guerre. Et il se bat pas tout seul, il se bat avec les anges, mais il se bat aussi avec nous. Parce que nous, dans notre condition mortelle, ici-bas, nous avons un pouvoir et nous combattons en son nom. Nous lions les démons, nous chassons les démons, nous leur menons une vie terrible, si nous nous prenons au sérieux et si nous le faisons réellement, si vraiment nous prenons à cœur ce que Dieu nous dit de faire, on est en guerre contre ces puissances mauvaises. C'est le premier ordre que chaque croyant baptisé reçoit, c'est d'être un chasseur de démons. Marc 16, 17. Chasseur de démons. Si tu es un chrétien, si tu as été baptisé correctement, comme la Bible nous le dit dans Acte 2, 38, alors tu es un chasseur de démons. C'est ta fonction number one. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau. Depuis 1977, là je ne vais pas tout vous reprêcher pour vous expliquer pourquoi cette date, elle a été donnée prophétiquement par le prophète majeur qui est l'ange, ce qu'on appelle l'ange de la Odyssée, c'est-à-dire celui que Dieu a envoyé à notre âge, pour notre âge, enfin tout ça c'est dans mes prédications anciennes que vous trouverez sur Internet pour vous qui écoutez Internet. Donc 77 a été un moment important, c'est le moment où le quatrième sceau d'Apocalypse 6, 7 à 8 a été brisé. On va lire ça. Apocalypse 6, 7 à 8. Je lis. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant. C'était. Vous vous rappelez de. L'être vivant, qu'est-ce que c'est l'être vivant du quatrième sceau? C'est l'aigle. Je regardais, et l'aigle donc dit, je regardais, et voici parut un cheval, donc l'aigle dit, viens. Et donc Jean est enlevé, il vient à la rencontre, et il voit, il dit, je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Après, quand c'est le cinquième sceau, il n'y a plus d'être vivant, il n'y a plus de cheval. Pourquoi? Parce que l'épouse a été enlevée. L'être vivant s'occupe de donner la force, d'inspirer l'épouse, mais quand l'épouse est enlevée, il n'y a plus tout cela. Et puis le cheval avec la mort et tout ça, maintenant ils sont, quand le cinquième sceau est ouvert, il s'incarne, il devient ce qu'on appelle l'Antichrist. Donc nous savons que nous sommes sous le quatrième sceau. C'est le moment, c'est le temps. Le quatrième cavalier d'Apocalypse 6, c'est la mort. Jusque-là, il n'y a rien de bien nouveau. Nous savons que la mort règne. Donc la mort parcourt la terre, c'est vrai. Mais ce qui est nouveau, c'est que le séjour des morts l'accompagne. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et les chrétiens ne savent pas ça. Ne comprennent pas ça, parce qu'ils n'ont pas écouté le prophète qui était là comme un signal, qui montrait la direction, qui montrait dans quel état, dans quel temps nous vivions. Ils n'ont pas écouté ce prophète, donc ils ne savent pas dans quel temps nous vivons, donc ils ne savent pas qu'on est sous le quatrième sceau. Donc ils pensent que c'est encore comme du temps de Jésus, où le séjour des morts est fermé et il n'y a pas de contact. Ils ne savent pas ça, mais il y a contact maintenant. Nous savons que le séjour des morts est un endroit qui a été créé par Dieu et qu'il y a plusieurs endroits dans le séjour des morts. Il y a deux principaux endroits. Il y a celui qui est appelé le Saint d'Abraham, c'est l'endroit où résident les morts qui sont prédestinés au salut. Un chrétien qui meurt, comme notre frère Raphaël qui est parti, là il est maintenant dans le Saint d'Abraham. Et puis deuxièmement, il y a un autre endroit où se trouvent les autres morts. Et maintenant, dans le mauvais côté du séjour des morts, là où il y a les morts qui n'ont pas reçu Jésus-Christ sur cette terre, eh bien, il y a des morts qui, depuis que Jésus est allé là en bas, il y est allé, rappelez-vous, c'est écrit. Eh bien, depuis qu'il est allé là en bas, depuis que Jésus a ouvert la porte et pris les clés, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Certains morts peuvent sortir et monter dans le sein d'Abraham. Vous trouvez ça, pour vous qui ne connaissez pas, dans 1 Pierre 3, 18, 20, méditez, priez, cherchez, et vous verrez, le Saint-Esprit va vous montrer que c'est vrai. 1 Pierre 4, 6, Éphésiens 4, 8, 9. Bon, avant que Jésus ne descende 3 jours et 3 nuits dans cet endroit pour prêcher l'Évangile, 1 Pierre 4, 6, pour prêcher l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut, et emmener avec lui des captifs dans les hauteurs, avant, c'était impossible de passer même d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire, c'était pas possible de passer du mauvais côté du séjour des morts dans le bon côté du séjour des morts. Mais depuis que Jésus est allé, la porte est ouverte. Depuis qu'il est allé, l'Évangile est régulièrement annoncé dans cet endroit parce que tout ce que Jésus a accompli, nous devons l'accomplir. Raphaël, je vous parlais de Raphaël. Raphaël, quand il est décédé, les 3 premiers jours et 3 premières nuits, il est allé là pour prêcher encore. Dans la mission de Zigane, il ne lui permettait plus de prêcher parce qu'il jugeait qu'il était trop vieux. Mais quand il arrivait dans le séjour des morts, croyez-moi que ça y allait. Hein, il a prêché là aussi. Et il a emmené avec lui des gens qui étaient captifs, des gens qui ont reçu Jésus-Christ grâce à sa prédication, et les a emmenés dans les hauteurs, comme Jésus a fait. Ce que Jésus a fait, nous devons le faire nous aussi. Si ça n'est pas vrai, prouvez-le-moi. Je vous donne des textes. Depuis qu'il y est allé, l'Évangile est donc régulièrement annoncé dans ce mauvais côté du séjour des morts, et ceux qui reçoivent le message avec foi peuvent sortir aussi bien que ceux qui sont sortis avec Jésus en son temps. Éphésiens 4, 8 à 9, vous lirez. Alors, la porte, elle était fermée, mais Jésus est entré, et il a pris les clés, et il en est ressorti, il a pris les clés. Maintenant, il est le roi, il est le maître dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est-à-dire dans le séjour des morts, il est le maître. Et il fait donc ce qu'il veut en tant que maître. Or, depuis que le quatrième sceau d'Apocalypse a été brisé, c'est-à-dire dans l'année 1977, depuis que le quatrième sceau d'Apocalypse 6 a été brisé, Jésus a ouvert la porte du séjour des morts, du mauvais côté du séjour des morts, et les morts en sont sortis. Combien en sont sortis? Je n'en sais rien, la Bible ne le dit pas. Sont-ils tous sortis? Je ne pense pas, mais une certaine catégorie est sortie, et ça ne doit pas être une bande de morts inefficaces. Dieu leur donne un pouvoir. La Bible dit que le cheval verdâtre est monté par la mort et que le séjour des morts l'accompagne. Et ce n'est pas tout. La mort et le séjour des morts reçoivent alors à ce moment-là un pouvoir. Où peuvent-ils exercer ce pouvoir? Sur terre. Sur notre terre. Si vraiment nous sommes à la fin des temps, si vraiment c'est quand le cinquième sceau est en train de se casser, si à ce moment-là l'épouse est enlevée, nous sommes sous le quatrième sceau. Et si nous sommes sous le quatrième sceau, la mort et le séjour des morts sont sur la terre. Si Jésus ne revient pas maintenant tout de suite, alors nous sommes peut-être sous le troisième sceau, et alors on s'en fout. C'est pas notre histoire. Mais si vraiment nous croyons que Jésus revient là, maintenant, bientôt, nous sommes sous le quatrième sceau, et la mort et le séjour des morts sont en train de se balader sur terre. D'après l'ONU, il y a 7 milliards 200 millions de personnes sur terre actuellement. 4 nouvelles personnes naissent chaque seconde. Et 2 personnes meurent normalement chaque seconde. comme ils sont toujours morts depuis longtemps. Toutes les secondes, deux personnes meurent sur Terre. Mais quelque chose est sur le point d'arriver qui n'est jamais arrivé. 1,8 milliard de personnes vont mourir d'une façon choquante d'ici peu. 1,8 milliard. Un quart. La mort règne en compagnie aujourd'hui du séjour des morts, mais leur règne est toujours sous contrôle. Qui contrôle ? Dieu contrôle. C'est Dieu qui leur a donné le pouvoir de tuer un quart de la population terrestre. Alors, la prophétie dit que le quart de la population humaine va périr. Premièrement, par l'épée. C'est-à-dire, à l'époque, il n'y avait pas les avions, les machins, tout ça. Donc, il dit, l'épée, c'est le symbole de la guerre. On nous a assez reproché qu'on a mis une épée là, derrière moi, mais ce n'est pas un symbole de guerre, là. C'est le symbole de la parole de Dieu qui est une épée à double tranchant. Ils vont mourir par l'épée, c'est-à-dire par la guerre, mais par des massacres aussi. Dans des révoltes violentes, il va y avoir des révoltes, d'ailleurs ça a déjà commencé depuis quelque temps, des révoltes violentes, des crimes, une recrudescence des crimes, par la famine, une famine qui est organisée, on va voir plus tard, tout à l'heure je vais vous expliquer par qui est organisée cette famine. La Bible nous dit encore par la mortalité, c'est-à-dire par les suicides, par les avortements. Savez-vous combien de centaines de milliers de petites vies sont massacrées en France chaque année? Par les suicides, par les avortements, et très bientôt, ici en France, par une euthanasie organisée, légalisée. Et, la Bible nous dit, par des bêtes sauvages. Ah bon? Mais il n'y a plus de bêtes sauvages, oui. Bon. Peut-être on a mis 2-3 ours dans les Pyrénées, mais bon, on ne va pas mourir avec ça quand même. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les bactéries sont des micro-organismes unicellulaires. À l'inverse des virus, les bactéries sont capables de se reproduire par division cellulaire. Une cellule mère produit 2 cellules filles. Les bactéries colonisent tout notre corps. Il y en a 1012 rien que sur notre peau. Sortes. Pas 1012 bactéries, 1012 sortes connues. Les bactéries ont été les premiers êtres vivants sur la Terre. Ce sont des êtres vivants, ce sont des bêtes, en quelque sorte. Il y a plusieurs milliards d'années, les bactéries ont été les premiers êtres vivants sur Terre. Ça sera les derniers. C'est logique. Ce qui est au début doit venir à la fin. Les bactéries ont été les premiers êtres vivants sur Terre il y a plusieurs milliards d'années. Elles sont formées d'une seule cellule. Notre peau, notre bouche, nos intestins hébergent des millions de bactéries et un seul gramme de terre en contient des milliards. Vous avez jamais entendu parler de la guerre bactériologique? Tout est prêt à nous péter à la gueule, tout est prêt. Le Club de Rome, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un groupe de réflexion qui réunit des scientifiques, qui réunit des économistes, des fonctionnaires nationaux et internationaux, et aussi des industriels de 53 pays. Ils s'appellent le Club de Rome parce que la première fois qu'ils sont réunis, c'était à Rome. Eh bien, leur rapport de l'année 2012... Il y a un livre, on peut se le procurer, le rapport du Club de Rome. C'est un bouquin, vous pouvez l'acheter sur Internet. Tout ce que je vous dis là, je l'ai piqué là-dedans. Pas tout ce que je vous dis là, mais au sujet du Club des 12. C'est ce que je vous dis au sujet du Club des 12, c'est sur Internet, dans leur rapport. Ils affirment que dans les 20 ans qui viennent, le système économique mondial sera effondré. Déjà, c'est plus tellement une prophétie. C'est très visible, nous autres on le sait déjà depuis longtemps, mais enfin maintenant eux ils le disent, et puis c'est pas des rigolos, c'est pas leur LRD, eux c'est des gens qui sont très au courant de ce qui se passe, et que pour sauver le monde, il faudrait que, ils vont pas parler avec le dos de la cuillère, il faudrait que la moitié de la population disparaisse, C'est le seul moyen pour pouvoir sauver le monde. Alors, ils disent que si 5 milliards de personnes mourraient en 2030, c'est-à-dire ça nous donne à peu près les 20 ans, hein, eh bien, cela ramènerait la population mondiale à son niveau de 1987 et ça pourrait nous sauver momentanément. Le Club de Rome. Le Club de Rome affirme que ce n'est pas seulement le réchauffement global qui est la sécurité, qui est à incriminer, pas du tout. Mais il dit que c'est surtout l'épuisement des ressources et le saccage de l'environnement sous toutes ses formes. On peut dire, pour être plus clair, que nous sommes en train, nous-mêmes, de détruire. On est ces bêtes sauvages, en quelque sorte. Habitées par toutes ces bêtes sauvages. Les pays riches sont les plus destructeurs, ils le disent. La France en fait partie. Mais notre cher gouvernement est beaucoup plus occupé à marier les gays qu'à sauver le monde. Et ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs. Je reviens à la prophétie. Je reviens à ce qui est dit. Les esprits des morts les plus nuisibles dirigent nos dirigeants, possèdent nos dirigeants, animent nos dirigeants, inspirent nos dirigeants. Et ces gens-là, ces possédés, comptent sur la catastrophe mondiale pour prospérer. Voilà pourquoi ils ne font rien pour empêcher cela. Au contraire. Et il n'y a pas que ça. Les morts les plus nuisibles entrent dans les masses populaires et les poussent à la révolte, révolte souvent justifiée, ils ne se révoltent pas bêtement, hein, c'est justifié très souvent, des milliards d'êtres humains possédés par des esprits de mort vont activer le processus de l'effondrement mondial. Des êtres humains possédés par ces esprits de mort. Le film qui m'avait le plus terrifié quand j'étais, je devais avoir 22 ans, c'était un film en noir et blanc qui s'appelait La nuit des morts vivants. Vous vous rappelez de ça? Vous l'avez vu, vous? Hein? C'était terrifiant. Maintenant, la Terre est infestée de morts vivants, c'est-à-dire de morts qui ont vécu autrefois, des Hitler, des Mussolini, tous ces gens qui ont commis des crimes, des horreurs, tous ces gens-là, ils sont lâchés sur Terre, et vous croyez que c'est pour aller voir la campagne? Non, ils veulent assouvir, ils veulent continuer à manifester leurs desseins, leurs mauvais penchants au travers des corps des êtres humains. Ils possèdent ces êtres humains pour arriver à faire ce qu'ils n'ont pas pu faire quand ils étaient vivants. Maintenant, les ressources limitées comme l'eau, le pétrole, la nourriture, ça va déclencher aussi un crash qui se terminera par une réduction précipitée de la population humaine. Et les grands le savent et ils ne font rien. Parce que ces élites-là, ce qu'ils veulent, c'est faire la volonté de la mort, c'est-à-dire pas la volonté de la vie, pas la volonté de Jésus, la volonté de la mort, c'est ça qu'ils veulent. Parce qu'ils ont passé un pacte avec eux pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir avoir une vie. Ils savent qu'il y a une vie après la mort. Ils savent, eux. Et ils ont fait des pactes sataniques. Ils veulent mettre en place le gouvernement mondial avec la mort à la tête. La mort étant l'opposé de la vie. Jésus est la vie. Qui est la mort? C'est l'adversaire redoutable, celui qu'on appelle Satan. La Bible nous annonce l'apparition d'un homme impie, l'Antichrist. Il est né, il vit aujourd'hui, il respire, il a mangé aujourd'hui, il vit. Et il va bientôt être révélé. Les fils de Dieu vont être bientôt révélés, mais lui va être révélé. Ceux qui sont à la tête ne sont pas là pour sauver le monde, mais ils sont là pour le diriger. Vers quoi le dirige-t-il? Il le dirige dans la mort, il le dirige dans le néant, il le dirige dans leur maître. Ils sont inspirés par des esprits de mort qui, eux, savent qu'il y a un Dieu. Ils ont même entendu l'évangile prêché dans le séjour des morts. Ils savent qu'une fois qu'on a quitté notre mort, ça continue, qu'il y a quelque chose après. Les morts savent que Jésus est Dieu. Et ils savent qu'ils sont perdus. Et ils ne veulent pas être perdus sans entraîner le monde dans la perte. Alors la mort règne plus que jamais. Elle a un pouvoir redoutable, celui de tuer un quart de la population de ce monde. Maintenant, est-ce que le pétrole va manquer? Non, il ne va pas manquer. Il n'en manque pas. Il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup. C'est un mensonge quand on vous dit que le pétrole va manquer. C'est faux. Est-ce que l'eau manque? Non, elle ne manque pas. Non, non, ça ne manque pas. Hier, Nicolas Savadogo m'a téléphoné en me disant « Il faut prier pour le Burkina, il ne pleut pas. » Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas l'eau qu'il faut? Si, mais pas au bon moment. Et ils ne savent pas la récolter, ils ne savent pas, on ne leur dit pas comment faire. On ne fait pas ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent avoir l'eau. Mais il y a suffisamment d'eau qui tombe là-bas. Mais c'est organisé, on veut qu'ils soient pauvres. On veut, pas on, c'est pas moi, hein. C'est l'élite là-haut, ceux qui nous dirigent vers la mort. Est-ce que l'eau manque? Non. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'il n'y a plus assez de nourriture pour nourrir le monde? C'est faux! Il y a beaucoup encore, on peut nourrir tout le monde. Mais on fait croire au peuple que tout va manquer. On veut affoler le peuple, on veut affamer le peuple, on veut appauvrir le peuple et on veut pousser le peuple au désespoir. C'est ça qui est organisé. C'est ça qui est organisé. Quand les peuples se seront bien entretués, on leur présente, parce qu'on leur retirera le pétrole en leur disant qu'il n'y en a plus, on leur retire déjà la nourriture, on les laisse crever de faim, on leur retire l'eau. Et ils vont se révolter. Et ils vont s'entretuer. Parce qu'ils sont pas fous, ils se rendent bien compte que ce sont les politiciens qui font tout ça. On parle des juifs et des arabes. Mettez un juif, un arabe. Mais ils s'aiment ces gens. Comme les bretons et les corses. La même chose. Mais c'est les politiciens, c'est ces gens-là qui font qu'il y a des guerres, que les gens se détestent. C'est les médias qui poussent les gens à la haine et toutes ces choses. C'est organisé. Les gens ne se haïssent pas. Mais on pousse les gens à la mort, on pousse les gens à la révolte. Et quand ils se seront bien entretués et qu'ils souffriront et qu'ils auront des morts dans toutes les familles, leurs fils, leurs pères, leurs mères, leurs enfants, alors on leur présentera l'homme providentiel, l'antichrist, l'abominable. On leur présentera et ils le recevront comme ils devraient recevoir Dieu aujourd'hui, ils le recevront comme un Dieu. Mais c'est l'abominable qu'ils recevront. Aujourd'hui, la population, cette populace, rejette Dieu. Ils veulent vivre sans l'autorité de Dieu. Ils veulent faire leurs expériences à eux parce qu'ils se croient plus malins que les autres. Étudiez l'histoire, regardez comment ça s'est passé autrefois. Pourquoi ne vous faites-vous pas attention à ce qui s'est passé autrefois? Pourquoi voulez-vous refaire les mêmes erreurs que vos parents et vos grands-parents? Bande d'abrutis! Prenez les leçons. Tournez-vous vers Dieu. Laissez le monde dans sa corruption et sa destruction organisée. Ces gens-là veulent vivre sans l'autorité de Dieu. Ils sont des victimes. Des victimes des influences des morts abominables qui ont vécu il y a des siècles en arrière et qui viennent assouvir leurs mauvais desseins et leurs mauvaises pulsions au travers d'eux. Des minables sous influence de mort. Et les vivants d'aujourd'hui les suivent l'influence de ces morts comme un immense troupeau d'abrutis qui disent que nous sommes des idiots parce que nous croyons dans la Sainte Bible. Ils ne reconnaissent pas Dieu. Ils croient au mensonge, et quand l'Antichrist paraîtra, ils le loueront comme s'il était Dieu. Alors il y a le spectre du système financier, qui est le plus gros candidat à la contribution de la destruction. Jésus nous a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, c'est soit Dieu, soit Mammon. La mort, Mammon, les morts du passé, plus les démons, tout est prêt pour le déluge de feu, mes frères et sœurs. Tout est prêt pour le déluge de feu. Que dire maintenant? Que dire alors que déjà ça bourronne, comme on dit, que déjà ça commence à gronder et qu'on voit les flammes qui montent? Que dire? Eh bien, je dirais, peuple chrétien, mais ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas distraire par des broutilles, par des imbécilités. La sœur machin m'a pas dit bonjour. Pénez! Soyez viril, nous dit l'apôtre Paul. Regardez là où sont les vrais problèmes, arrêtez de vous chicaner pour des conneries! Peuple chrétien, ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas hypnotiser par les petits renards qui viennent dévorer la vigne. Regarde les vraies difficultés, prépare-toi à vivre des moments difficiles. Économise, prépare-toi à vivre des moments difficiles. Organise-toi pour la survie, pour la survie. Élève ta voix vers ton Créateur, et il t'inspirera comment tu dois te conduire. Une chrétienne m'a écrit l'autre jour au sujet de la vie communautaire, ayant trouvé des textes dans Révélation Bible, me dit « Ah oui, c'est très bien la vie communautaire, en temps de crise, alléluia, ou pendant les persécutions, mais bon, chacun sa vocation. » Celle-là, là, quand elle viendra au portail pour demander de l'aide, quand la crise deviendra insupportable, je l'enverrai paître quelque chose de bien. Ah oui, tu veux venir profiter maintenant que tu n'as plus rien, alors que c'est quand tu es vivant et que tu as encore que tu dois tout donner? Bande de profiteurs qui comptent sur Dieu, mais qui font jamais ce que Dieu leur dit de faire. Quelle honte! Alors n'oublie pas, mon frère, ma sœur, ton rôle numéro un, c'est d'évangéliser et de chasser les démons, mais en plus de chasser la mort aussi. Fais face aux esprits des morts. Résiste à leur désespérance. Ils viennent comme des êtres pour te désespérer, pour ruiner ton moral, pour te décourager. Ils cherchent à te désespérer, comme ils sont eux-mêmes désespérés parce qu'ils savent que c'est bientôt fini. Une foule de plusieurs milliards d'êtres humains sont aujourd'hui les véhicules des morts d'autrefois. Vous savez ce que ça veut dire ? Les véhicules des morts d'autrefois. Un véhicule, on a pris un véhicule pour venir jusqu'à la chapelle ce soir, on est monté dans une voiture, eh bien on est arrivé là où on voulait. Les démons, ils se servent des êtres humains, ils montent en voiture, ils rentrent dans les êtres humains pour pouvoir aller faire ce qu'ils ont à faire. Des milliards, des foules de milliards d'êtres humains sont aujourd'hui les véhicules des esprits des morts. Veillez et priez. Je sais qu'on va passer pour des malades mentaux complets. Ça m'est égal. Un jour, nous serons révélés. Que Dieu soit béni. Amen. Jésus, je te prie de fortifier mes frères et sœurs dans la foi et qu'ils s'occupent de choses réellement importantes et qu'ils laissent tomber les broutilles. Merci Seigneur Jésus de bénir chacun et chacune et de donner à chacun et chacune cette virilité dont l'apôtre Paul nous parle dans sa lettre aux Corinthiens, afin que nous puissions faire face à tout ce qui arrive sur ce pauvre monde. Merci Jésus. Amen. Amen.